Laudetur Jesus Christus.
Les Européens tentent de s'organiser, de se coordonner pour faire face au changement de donne concernant l'Ukraine. Une réunion a lieu aujourd'hui à Paris alors que la Russie précise que les Européens n'ont pas leur place à la table des négociations. La suspension de l'aide humanitaire des États-Unis continue de susciter des critiques après celle de Caritas Internationalis, celle du JRS, le service jésuite pour les réfugiés. Son directeur nous expliquera quels sont les programmes qui sont le plus à risque. Ouverture du procès Nemouche ce matin à Paris. Ce djihadiste déjà condamné en Belgique pour le meurtre de 4 personnes est accusé de la séquestration de plusieurs Français en Syrie. C'était en 2013. Bukavu aux mains des rebelles du M23. Leur progression à travers la RDC se poursuit sans rencontrer beaucoup de résistance. L'Union africaine leur a demandé de se retirer immédiatement.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, mais avant de passer à l'actualité internationale, des nouvelles de la santé du pape toujours hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome. Il s'est bien reposé, il a passé une nuit tranquille. Ce matin, après avoir pris son petit déjeuner, il a lu la presse. Son traitement contre la bronchite se poursuit. C'est ce qu'annonce la salle de presse du Saint-Siège. Des nouvelles plus détaillées seront données en fin d'après-midi. Passons maintenant aux nouvelles du monde. Quel positionnement diplomatique européen face à l'accélération du calendrier russo-américain? Avant un éventuel sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine et des pourparlers bilatéraux demain à Riyad, la question taraude les chancelleries du vieux continent. Une dizaine de dirigeants des pays de l'UE et de l'OTAN vont définir leur réponse commune ce lundi donc à Paris, Delphine Allaire.
Oui, la conférence sur la sécurité de Munich à peine achevée ce dimanche, c'est dans la capitale française que se retrouvent aujourd'hui, Xavier, les chefs de gouvernement allemands, britanniques, italiens, polonais, hollandais, espagnols ou danois, mais aussi la triade de hauts responsables européens formés par le président du Conseil, de la Commission et le secrétaire général de l'OTAN. À l'Élysée, la réunion présentée comme informelle va tenter de fournir une réponse concertée sur le dossier ukrainien face au possible court-circuit russo-américain. Les Européens veulent concevoir eux-mêmes les garanties de sécurité pour l'Ukraine qui entre lundi prochain dans sa 4e année de guerre. Le Royaume-Uni est prêt à envoyer si nécessaire des troupes sur le terrain pour y contribuer. La Suède ne l'exclut pas, mais l'Allemagne juge ces discussions prématurées et la Pologne ne le prévoit pas. La Hongrie, ce matin, fustige des dirigeants frustrés, pro-guerre et anti-Trump. L'Union européenne, fébrile en ordre dispersé, peine donc à faire entendre sa voix. Le président Zelensky, arrivé hier aux Émirats arabes unis, exhorte pourtant lui-même à éviter un accord forgé par les Américains dans le dos de l'Ukraine et de l'Europe.
Delphine Allaire, et les discussions en vue d'une éventuelle paix s'annoncent compliquées. Le ministre russe des Affaires étrangères vient de déclarer qu'il n'y avait pas de place pour les Européens qui veulent continuer la guerre selon ses termes. Sergueï Lavrov s'est également prononcé sur les pourparlers qui auront donc lieu demain en Arabie Saoudite entre de hauts responsables russes et américains. Ils visent au rétablissement des relations entre Moscou et Washington et à de possibles négociations donc sur l'Ukraine ainsi qu'un éventuel sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Les deux présidents se sont entendus hier pour sortir de leur relation conflictuelle anormale selon les mots du chef de la diplomatie russe. Sur le plan militaire, l'armée ukrainienne a envoyé plusieurs dizaines de drones sur la Russie qui affirme en avoir abattu 90 la nuit dernière. Un oléoduc reliant la mer Caspienne à la mer Noire via le sud de la Russie a été visé. Une station de pompage a été arrêtée, a annoncé la compagnie exploitante. L'armée russe, quant à elle, affirme avoir repris un village frontalier de la région russe de Koursk que les troupes ukrainiennes occupent depuis l'été dernier. L'activité diplomatique au plus haut ces jours-ci avec cette tournée du secrétaire d'État américain au Proche-Orient et dans le Golfe Persique. Marco Rubio, qui était hier en Israël, est aujourd'hui en Arabie Saoudite pour y parler non pas de l'Ukraine, mais de Gaza. Il doit parler de la proposition de Donald Trump de prendre le contrôle du territoire palestinien. Toujours au Proche-Orient, le président libanais craint, lui, que l'armée israélienne ne se retire pas totalement du sud-Liban demain, comme prévu dans l'accord de trêve entre le Hezbollah et Israël. Joseph Aoun affirme que la solution aux armes du mouvement chiite était une question interne libanaise. L'intense activité de la présidence américaine depuis plus d'un mois bouleverse déjà le monde, l'Europe, on vient de le voir, le Proche-Orient également, mais aussi l'aide au développement dont les États-Unis sont un des acteurs majeurs. À l'annonce par Donald Trump de la suspension de cette aide via l'agence fédérale USAID a provoqué de vives réactions, celles des évêques américains, du pape, de Caritas Internationalis et aussi celles du service jésuite pour les réfugiés, le JRS, l'organisme humanitaire de la Compagnie de Jésus. Le JRS est directement concerné par la décision du gouvernement américain, c'est ce que nous précise le père Michael Schöpf, le directeur international du JRS.
Ça a un grand effet sur nos projets. On a 9 projets qui sont actuellement en suspension dans 9 pays différents avec un volume annuel de 18 millions de dollars. Et ça touche plus de 100 000 réfugiés autour du monde. Les projets s'arrêtaient d'un jour à l'autre. On a reçu les nouvelles le 24 janvier et on devait arrêter les activités le jour même. Vous pouvez imaginer, il s'agit des écoles, des projets pour la santé mentale, de l'aide d'urgence, des programmes pour les enfants, etc. C'est vraiment un élément fort de la vie des personnes qui s'est arrêtée du jour au lendemain. Et il faut reconnaître les effets sur le terrain. On se met en mode urgence et on a lancé un appel à toutes les provinces jésuites, à tous nos bénéfacteurs les plus fidèles, et vraiment ils nous ont aidés commencer au moins avec un service essentiel. Mais effectivement, il n'y a aucune organisation qui peut remplacer ce que faisait le gouvernement américain avant.
Des propos recueillis par Jean-Charles Puzelu en France, ouverture du procès de Mehdi Nemmouche, dit aussi Abou Omar et d'autres membres de l'organisation de l'État islamique en Syrie. Ces hommes sont accusés d'avoir été les geôliers, les tortionnaires de 7 occidentaux, dont 4 journalistes français il y a un peu plus de 10 ans. Mehdi Nemmouche est le même homme qui en 2019 a été condamné à la prison à perpétuité en Belgique pour avoir conduit en 2014 l'attentat meurtrier contre le musée juif de Bruxelles. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
Le français Mehdi Nemmouche est jugé par la cour d'assises spéciale de Paris aux côtés de 2 autres hommes. Abdel Malek Tanem, déjà condamné en France pour avoir rejoint la Syrie en 2012 et accusé d'avoir été l'un des geôliers des 4 journalistes français. Et puis le Syrien Kais Al-Abdallah, qui est accusé d'avoir facilité l'enlèvement de 2 des journalistes. La cour va juger aussi par défaut 2 autres accusés qui sont présumés morts. Salim Benghalem, considéré comme le chef de la détention des otages, et Oussama Attar, un dirigeant de l'organisation dite de l'État islamique, qui a déjà été condamné par défaut pour avoir commandité les attentats meurtriers du 13 novembre 2015 contre la France. Les inculpés sont accusés d'avoir enlevé, séquestré et torturé 7 occidentaux, dont 4 journalistes français. Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hélin et Pierre Torres, des journalistes capturés à quelques jours d'intervalle dans les villes syriennes d'Alep et de Raqqa en juin 2013, avant d'être libérés en avril 2014. Les inculpés nient tout en bloc. Quant à Mehdi Nemmouche, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, la même peine qu'il a déjà reçue en Belgique pour la tuerie perpétrée au musée juif de Bruxelles. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
Le conflit dans l'est de la RDC fait craindre le pire au président du Congo, Brazzaville. Dans une interview accordée à France 24, Denis Sassou Nguesso voit le risque d'une guerre régionale. Il mise cependant sur la sagesse africaine, selon ses termes, pour éviter d'en arriver là. Les dernières prises de position de l'Union africaine, qui était réunie en sommet ce week-end à Addis Abeba, ne permettent cependant pas de voir une solution diplomatique à court terme. Elle s'est contentée de demander aux rebelles du M23 et leurs partenaires de se retirer immédiatement. Or, le groupe rebelle, appuyé par l'armée rwandaise, a pris ce week-end la ville de Bukavu. Le point sur la situation avec Augustin Moussangue.
Bukavu, capitale du Sud Kivu, est tombée sans résistance 48 heures après la chute du dernier verrou des FRDC à l'aéroport de Kavumu. Le matin de ce dimanche, des colonnes des militaires du M23 sont entrées dans la ville de Bukavu sous les acclamations de certains curieux. À la tête de cette force, le numéro 2 de l'armée de la rébellion, Bernard Maeshe Biamungu, prononce quelques mots à la place de l'indépendance, le plus grand carrefour au centre de cette ville. Depuis la chute de Kavumu, le gouverneur du site Kivu et toute son administration avaient quitté la ville. L'armée, ses partenaires burundais et la police aussi. La chute de Bukavu donne le contrôle total du lac Kivu au M23 maintenant. À Bukavu, les nouveaux occupants de la ville appellent la population à une collaboration en dénonçant le cachet des ennemis. La journée du samedi a été consacrée à des scènes d'épillage dans la ville de Bukavu. Les badauds et enfants de la rue ont terrorisé la population avec les armes abandonnées par-ci par-là. Goma, Augustin Moussangué pour Radio Vatican.
Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Au prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h heure de Rome. D'ici là, très bonne journée à toutes et à tous.